terre se relève et toi t'auras ton procès quand on sera tous irradiés. Et dis-moi Kojima, qu'est-ce que tu feras quand pour le présent y aura plus le temps. La Kojima aime vos enfants, elle fait des dons une fois par an. La Kojima aime vos enfants, elle fait des dons. La Kojima aime vos enfants, elle fait des dons une fois par an. La Kojima aime vos enfants, elle fait des dons.
Elle fait des dons une fois par an.
La Kojima aime vos enfants.
Et bonjour, Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Tour du Monde Libertaire. Une émission animée par Alain Terrieur à la programmation musicale et à la régie. Et bien sûr, micro ouvert, Monique. Bonjour Monique.
Bonjour.
Un an, et voilà un an déjà que j'anime et prépare cette émission et que je vous retrouve avec bonheur les derniers lundis de chaque mois dans le Tour du Monde Libertaire. Merci à vous qui écoutez, merci à Monique sans qui tout cela ne serait pas possible. Merci à Radio Libertaire et merci à Philippe le maquettiste du Monde Libertaire qui m'adresse chaque mois le journal sous forme numérique pour que je puisse vous en faire la présentation à l'antenne. Merci enfin aux compagnes et compagnons du comité de rédaction du Monde Libertaire, évidemment parce que sans eux, cette émission n'aurait aucun objet. Et trêve d'émotions émotionnantes, je déclare que c'est parti pour le Tour du Monde Libertaire, le journal sans Dieu, ni maître, ni publicité de la Fédération Anarchiste, le ML pour les intimes, le numéro 1860 d'avril 2024. Ce monde libertaire que tout le monde attend et qui sera bientôt dans votre boîte aux lettres si vous êtes abonné, avec en plus un cadeau, les abonnés. Ah ah, quelle chance! La une est signée Holt, et OLT, Holt, je ne sais pas, et les édito du CRML, du comité de rédaction du Monde Libertaire, voisine le strip de Faber, Monsieur l'Homme absolument génial, et un fait divers charentais. Édito donc dont je vous donne la lecture immédiatement. Il est titré par une citation de Hubert Félix Thiéphen dans Alligator 427. Je sais que dans votre alchimie, l'atome, ça vaut des traveler chèques, et ça suffit comme alibi. Les abonnés donc ont trouvé, nous dit l'édito, vont trouver donc dans quelques jours et dans leur boîte aux lettres, avec ce numéro d'avril, l'un des derniers livres parus aux éditions du Monde Libertaire, intitulé « La pieuvre nucléaire ». Ce livre accompagne le dossier anti-nucléaire de votre Monde Libertaire et fait le point sur le sujet en l'abordant sous les angles de la technique, de la santé, du climat et de la sociologie. C'est un livre pratique qui permet de comprendre les enjeux et de prendre part aux différents débats autour du nucléaire. Aujourd'hui, car il faut également faire le point, P-O-I-N-G, sur ce sujet, donc au sens figuré bien sûr, en organisant des débats ou en participant aux réunions pour apporter la contradiction. Le dernier congrès de la Fédération anarchiste, réuni à Köln en 2023, a prolongé la grande campagne antinucléaire décidée en 2022. Un certain nombre d'actions ont déjà été réalisées, d'autres doivent suivre, et un nouvel outillage vous est proposé avec cette pieuvre insérée dans ce Monde Libertaire d'avril consacré à la lutte, aux luttes antinucléaires aujourd'hui. On pourra également relire l'abondant dossier du numéro 1849 d'avril 2023 intitulé « Électrons, piège à con ». C'est d'ailleurs le premier Monde Libertaire que j'ai présenté à l'antenne il y a un an tout juste. Donc, même si le dérèglement climatique est aujourd'hui indéniable de façon générale, le conditionnement généralisé à l'acceptation et au développement du nucléaire est insupportable. Toutes les politiques gouvernementales, avec plus ou moins de complicité de la part des mouvements écologistes, politiques en particulier, visent à faire du nucléaire l'énergie verte universelle pour le plus grand profit des capitalistes et comme la fameuse transition énergétique est un leurre, puisqu'une nouvelle source d'énergie n'en remplace pas une autre, mais s'y ajoute, on risque bien deux catastrophes, l'une climatique, l'autre nucléaire, comme dit l'autre, réarmons-nous. C'est signé le comité de rédaction du Monde Libertaire. La honte absolue, c'est le titre du fait divers de Jean-Marc Reynaud, dit Reynaud le Terrible, une chronique de la justice ordinaire que je vous laisse déguster. Monique, est-ce qu'on peut écouter une petite chanson tout de suite maintenant ? Merci beaucoup.
Tous les matins, combien de morts faut-il ajouter au décompte ? Combien de cadavres encore faut-il ajouter à la honte? Gaza bombardé, massacré, enfants ciblés, mères en pleurs. De mots viennent à mes pensées, la lâcheté et le déshonneur. C'est un peuple mis en prison, qu'on mutile, qu'on asphyxie, écoles, hôpitaux, maisons, partout ruines, gravats, débris. Écraser les chopes et la rue, le marché, la chambre au bonheur, et deux mots marquent ceux qui tuent, la lâcheté et le déshonneur. Soldats planqués dans ton blindé, puissants comme 20 forteresses, dont un seul obus va briser, sans risque pour toi, 20 jeunesses. Et toi, pilote routinier, avec tes missiles de l'horreur, vous personnifiez à jamais la lâcheté et le déshonneur. Et toi qui ordonne, qui pense, et n'a avec ton état-major pas d'autre choix dans ta démence que de frapper encore plus fort, que d'aller plus loin dans le crime et d'infliger plus de douleur. Tu incarnes au degré ultime la la lâcheté et le déshonneur. Non, la lutte n'est pas égale entre 1000 avions, 1000 chars, 100 000 bombes infernales et un peuple enfermé à gare. Taisez-vous, gens de propagande. Larbin sans conscience ni cœur. Vos mots sont fientes qui défendent la lâcheté et le déshonneur. Voleurs de vallées, de collines, votre rêve semble être de saigner tous les enfants de Palestine, de les tuer jusqu'au dernier. Jusqu'où donc ira votre haine? Vous vous prenez pour des seigneurs, mais derrière vous, comme une traîne, à lâcheté et le déshonneur. Et lui et elle, et vous d'ici, femme ordinaire, simple passant, où sont votre rage et vos cris? Le silence est assourdissant. Et toi, le premier d'entre nous, veulent qui reste spectateur. Voici que retombe sur nous ta lâcheté et ton déshonneur. Combien de temps faudra-t-il pour que soient jugés les assassins? Combien d'années, combien de jours pour que la paix ouvre ses mains? Combien de jours, combien d'années pour que vienne la fin des pleurs? Combien de temps pour oublier la lâcheté et le déshonneur?
Gaza, été 2014, c'était Michel Buller. Vous écoutez Le Tour du Monde Libertaire sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste.
Et donc ce Tour du Monde Libertaire apparaître, ce numéro d'avril, les pages Terrain de Lutte s'ouvrent sur un communiqué des relations extérieures de la Fédération Anarchiste suite aux agressions de l'extrême droite qu'a subi la librairie Publico. La bête immonde se sent pousser des ailes, soyons toutes et tous vigilants. Sur le terrain des luttes, toujours, le groupe de Metz de la Fédération Anarchiste nous narre cette journée du 9 mars où des fondus de la calotte avaient appelé à une prière anti-IVG dans la cathédrale de cette bonne ville de Metz. Une mobilisation antifasciste s'est organisée, situation tendue comme vous pouvez l'imaginer. La police, toujours du bon côté, intervient. Résultat, interpellation de 3 antifascistes. Les détails sont à retrouver dans les colonnes du Monde Libertaire, apparaître donc dans quelques jours. Rictus du groupe La Sociale de Rennes nous annonce une bonne nouvelle. L'ouverture d'un nouveau squat dans sa ville. Un squat qui s'inscrit, nous dit-il, dans la durée. Le mois dernier, le groupe parisien Commune de Paris se présentait aux lecteurs et lectrices du Monde Libertaire. Et bien dans ce numéro d'avril apparaître, c'est le groupe Kropotkine que nous allons découvrir. Le groupe Kropotkine, un groupe rural, c'est le titre de cet article. Membres du groupe Kropotkine, nous sommes des militantes et des militants anarchistes œuvrant à l'émancipation sociale. Nous préparons aujourd'hui les bases et pratiques qui devront régir les rapports dans la société de demain, et tout ça est à lire dans Le Monde Libertaire. Et puis, À la page suivante, c'est le groupe Pierre Bénard, un groupe parisien cette fois, qui a décidé de se présenter. Le groupe Pierre Bénard a été fondé en 1981 suite à l'élection de Tonton Mitterrand. Il semblait urgent, nous dit ce groupe, au-delà de nos appartenances anarcho-syndicales, de rejoindre la Fédération anarchiste pour renforcer la militance anarchiste. Et donc un article à retrouver dans Le Monde Libertaire d'avril à paraître. Dans les pages actualité de ce Monde Libertaire d'avril, on trouvera d'abord le coup de gueule de Justhomme qui ne décolère décidément pas dans cet article intitulé « Une déclaration de guerre ». Se rebeller est juste, désobéir est un devoir, agir est nécessaire, disait Oscar Wilde. Il ne faut pas oublier que la lutte des classes est plus que jamais d'actualité en cette période où les politicards n'ont que mépris pour nous et nous impose la misère et la pauvreté. Le discours de politique générale prononcé le 30 janvier 2024 devant les députés par Gabi Attal, la nouvelle chatemite de Premier ministre, est une véritable déclaration de guerre, une chasse aux sorcières, une mise au pas des jeunes et ce, dès la maternelle, puis un embrigadement une fois en seconde. Tout est dit, les maîtres mots sont l'autorité et le civisme. Après cet article de Salubrité Public, un autre fait divers où Jean-Marc Reynaud s'intéresse à notre père la victoire, à nous, Sa Majesté Emmanuel Macron. Cher à Canon, cher à Patron, cher à Macron. Dans les pages passeport, les pages internationales du Monde Libertaire d'avril, un article de nos camarades d'Humanita Nova, le pendant italien du Monde Libertaire, un article paru dans ce journal le 15 février dernier et traduit de l'italien par Claude Strano du groupe Enza Sicardi. Son titre « Arrêtons le génocide à Gaza ». Le massacre en cours à Gaza et en Cisjordanie trouve ses causes dans une histoire bien plus longue et bien plus complexe que l'attaque criminelle du Hamas du 7 octobre. Cette situation s'inscrit dans le cadre des guerres qui redéfinissent l'échiquier international, dont ce qu'on appelle le Moyen-Orient a toujours été un nœud crucial. Depuis sa création, l'État d'Israël a cherché à s'approprier les ressources de la région, en particulier l'eau, en occupant successivement le plateau du Golan et la vallée du Jourdain. Ces dernières années, la découverte de riches gisements de gaz au large de Gaza a joué un rôle stratégique. 50 ans. Il y a 50 ans, le 2 mars 1974, l'anarchiste catalan Salvador Puig Antich était exécuté par le pouvoir franquiste, exécuté par Garoville à la prison Modelo de Barcelone. Ramon Pino revient sur cet assassinat et le parcours de Puig Antich dans cet article intitulé « Salvador Puig Antich, on ne t'oublie pas ». Et au Chili, un article qui vaut le détour, les vols gratuits en hélicoptère, ça n'existe pas. Le Monde Libertaire publie ce mois-ci un communiqué de nos camarades du Chili sur la mort de Sebastián Piñera le 8 février dernier. Un texte traduit par le secrétariat aux relations intérieures de la Fédération anarchiste. Le 6 février 2024, le milliardaire Sebastián Piñera est mort dans l'accident de l'hélicoptère qu'il pilotait. Ses politiques en tant que président du Chili ont contribué à la misère qui a fini par provoquer la révolte populaire du 18 octobre 2019. Un article passionnant et instructif qui se conclut ainsi: pour les morts, mutilés, emprisonnés, violés et suicidés de la révolte, nous danserons sur ta tombe. Fin de citation. Pour conclure sur l'international, Ramon Pino, encore lui, nous livre ses réflexions sur le 8 mars en Espagne. Un article qui voisine avec une rubrique météo vue de l'île d'Oléron par Jean-Marc Reynaud, dit Reynaud Féroce, bien entendu. Dans les pages histoire, Alexandre Caspar du Fouette de la Fédération anarchiste Moselle-Luxembourg nous raconte la belle histoire de la police française au joli temps où elle était l'alliée des nazis sous le doux régime de Vichy.
On se moque du tir comme du car. Le monde se fout du monde car. si l'on s'arrête 5 minutes. On voit sous la cocotte minute le feu à fond train la pression, la fin tenant à un bouton, sur le fil de la dissuasion, encore une belle idée béton. On fait pousser des champignons dans les caves de l'oncle Dom Tom. Gentil, gentil, les autochtones, pour prendre bien un bout d'atome. Où va-t-on, papa? Je ne sais pas, mais on y va. De qui descendons-nous, maman, pour être aussi condescendant? Où va-t-on, papa? Je ne sais pas, mais on y va. Comme dit mon tonton, plus on est de cons, plus ça se voit. Qu'un petit crime se commette là-bas à l'ombre d'une comète, parce qu'une bande de Vénusiens dans un bal en sont venus aux mains. Et aussi sec, notre petite planète est au jus au courant du fait, par la lorgnette des caméras, prête à mater tous les coups bas. Tandis qu'en bas de chez toi, de chez vous, de chez nous, de chez moi, quelqu'un tout seul de faim, de froid, est mort en se bouffant les doigts. Où va-t-on, papa? Je ne sais pas, mais on y va. De qui descendons-nous, maman, pour être aussi condescendant? Où va-t-on, papa? Je ne sais pas, mais on y va. Comme dit mon tonton, plus on est de cons, plus ça se voit. Des têtes à claque portant calotte, clame à bas la capote, puis se froibé aux siens du sexe, qui mettent l'IVG à l'index, eux qui de la vie ne connaissent que les balivernes des livres de messe. Un doigt de la crime à Christie, un autre dans l'Opus Dei. Et si l'amour peut rendre aveugle, il rend sourd ces fous qui beuglent, ces onanistes consacrés. D'eux aussi il faut se protéger. Où va-t-on, papa? Je ne sais pas, mais on y va. De qui descendons-nous, maman, pour être aussi condescendant? Où va-t-on, papa? Je ne sais pas, mais on y va. Et comme dit mon tonton, plus on est de cons, plus ça se voit. Où va-t-on, papa? Je ne sais pas, mais on y va. De qui descendons-nous, maman, pour être aussi condescendant? Où va-t-on, papa? Je ne sais pas, mais on y va. Comme dit mon tonton, plus on est de cons, plus ça se voit.
Où va-t-on ? C'était La Tordue. Dans le Tour du Monde Libertaire sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste.
Et donc, dans ce Tour du Monde Libertaire, ouvrons maintenant le dossier de ce Monde Libertaire, 1800, numéro 1860 d'avril 2024, à paraître. Contre le nucléaire et son monde, tel est le titre de ce dossier. Et pour en parler, je reçois Nicolas du groupe Gaston Leval, qui a été le chef d'orchestre du dossier que publie le Monde Libertaire. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Je crois que tu fais partie d'un réseau qui s'appelle le réseau Macno.
Absolument.
Ouais, on peut en dire deux mots ?
C'est très secret. C'est un peu secret. Enfin, certains des membres de son réseau sont présents dans le studio.
Quelques-uns. D'accord. Et alors, ce réseau Macno, il a été créé pour quelle raison ?
De façon un peu informelle, en fait, l'ouvrage là dont on va parler, qui est le deuxième...
Oui, parce que je rappelle, hein, je l'ai dit déjà tout à l'heure, mais les gens n'écoutent pas, vous savez ce que c'est. Si vous êtes abonné, vous allez, en plus de votre Monde Libertaire, recevoir un petit bouquin qui s'appelle La Pieuvre Nucléaire, qui s'intitule La Pieuvre Nucléaire, et qui sera en sortie, disponible...
Et qui sera dans les...
Mi-avril, hein, c'est ça.
C'est ça, oui, 14 hein avril, je crois, précisément.
D'accord,
ouais.
D'accord.
Et voilà. Qui est déjà dans une très bonne librairie, comme la librairie Publico.
Comme la librairie Publico, par exemple, c'est incroyable.
Absolument. Oui, oui. Et donc cet ouvrage est le deuxième qui a été coordonné par le réseau, le dit réseau Macno. Macnaud, le premier étant un ouvrage qu'on rédigeait il y a 2 ans maintenant, consacré donc à la guerre en Ukraine, et qui répondait par nous autres, donc qui avons contribué à un besoin d'information et de communiquer, de donner aux militants et à tous ceux qui voudraient le lire la possibilité d'avoir des faits précis et qui s'éloigne un peu d'un discours binaire entre les bons et les méchants. voilà, donc concernant en tout cas plus particulièrement la guerre en Ukraine. Et puis dans le cas du nucléaire, c'est un peu l'idée, la chose dont on a eu envie de parler très vite, puisque ce type de petit livre disponible à un prix modeste et avec de l'information a plutôt eu une bonne réception. Et donc on a eu envie de transformer l'essai, de poursuivre. Et donc ça nous est venu assez rapidement à l'idée de nous inscrire, de nous intéresser au nucléaire, puisque ça répondait aussi à l'actualité gouvernementale de ce qu'on appelle relance du nucléaire en France.
Oui, alors justement, on va en parler, mais il y a quand même une chose, au-delà des questions techniques, technologiques, du danger que représente le nucléaire. Dans le premier article là qui est publié dans ce numéro du Monde Libertaire, on peut lire « Mais avant tout, le nucléaire est un projet de société et il constitue exactement le projet de société dont nous ne voulons pas ». Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent de rappeler. C'est vrai qu'on met toujours en avant la dangerosité du nucléaire, mais ce qu'engendre le nucléaire, c'est plus de police, plus de surveillance, la sécurité, encore la sécurité.
Oui, complètement. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut avoir l'impression que le nucléaire, il y a des pour et des contre. Dans chaque camp, il y a des spécialistes, tous plus ou moins plus spécialistes les uns que les autres. Et donc, on peut parfois se sentir un peu exclu de ce débat dont on peut ne pas toujours percevoir les enjeux ou la technicité. De fait, je pense que si la Fédération anarchiste, d'une manière générale, a toujours, je crois, enfin, j'en suis certain, été fermement hostile au nucléaire, c'est bien sûr à cause de la dangerosité générale qui est intrinsèque au projet nucléaire, mais c'est aussi à tout ce qui en découle, la dimension militaire évidemment, qui est l'acte de naissance du nucléaire et qui va être décliné en nucléaire civil par la suite, mais effectivement, comme tu l'as précisé, comme on le disait anciennement, société nucléaire,
société policière,
voilà, donc le contrôle, la police, et je sais que Serge, qui est là et qui nous écoute, pourrait développer tout ça sans problème.
Alors, plus loin, toujours dans le même article, on peut lire « L'industrie nucléaire incarne le monde centralisé, autoritaire et policier », donc ça, on vient de le dire, mais c'est surtout qu'on ajoute immédiatement tout ça en s'appuyant sur la fiction mensongère d'une production d'énergie infinie et bon marché. Et qui nous assure une autonomie finalement. Et là encore, on est dans le mensonge. Et c'est drôle parce que quand on nous a vendu le nucléaire dans les années 60, 70, puis 80, ça a été long tout de même. Hein, on a fait face au même mensonge. Hein. On avait de mémoire un directeur de l'EDF. Qui nous disait que un morceau d'uranium, c'était pas plus dangereux qu'un morceau de sucre.
Oui, il y a beaucoup de mensonges. Je me souviens pas de ça. C'était pas celui qui s'appelait Boiteux.
Oui, c'est lui. Ça, c'est lui. C'est absolument lui.
J'ai retrouvé un peu dans les archives, il y avait un magazine qui s'appelait La Gueule Ouverte, qui l'a clairement annoncé, parlait d'électrofascisme. Donc voilà, on voit bien le rapprochement de l'autoritarisme et du nucléaire. Et sur une de ces couvertures, en fait, ils avaient caricaturé ce directeur d'EDF en une sorte de Hitler vitupérant avec une casquette comme ça.
Ouais, et donc c'était ce
fameux directeur d'EDF.
Directeur d'EDF.
Ce qui est intéressant à comprendre dans le nucléaire, dans cette dimension qui s'adresse à l'imaginaire, c'est que donc c'est quelqu'un, par exemple, comme Ange Potin, qu'on a reçu dans Trou Noir, qui développait un peu cette idée-là, c'est le fait de vendre peut-être ce qu'on a envie d'entendre. Mais c'est-à-dire qu'effectivement, la promesse d'une énergie indéfinie, bon marché, ce qui s'avère de moins en moins vrai, et au final, peut-être, la certitude ou la promesse de pouvoir continuer à consommer comme on peut le faire actuellement. Donc il y a un lien réel entre ce que le nucléaire essaye de promettre et la société de consommation, la société marchande dans laquelle nous vivons. Ouais.
Malgré le gouffre financier que tout ça représente, parce que tout de même, le pognon coule à flot. Et pour réparer des erreurs, pour réparer des choses qui n'ont pas été prévues, volontairement ou involontairement, on ne saura peut-être jamais, mais c'est absolument incroyable. Donc, en fait, pour les gens qui sont favorables au développement de cette énergie, c'est peut-être nous assurer, mais surtout s'assurer que nous allons continuer et rester pour longtemps dans une société de consommation. Mmh, hein, mmh. Consommation qu'on pourrait qualifier de consommation imbécile. C'est bien ça.
C'est ça, c'est l'énergie abondante et au mépris souvent, comme tu l'as évoqué, de bien des réalités financières notamment. Enfin voilà, on a tout à l'heure dans Trou Noir, on a parlé de la mise en route possible redoutée de l'EPR de Flamanville. Donc voilà, on sait que le budget a été multiplié par 6, on approche des 20 milliards. On parle de milliards, hein, c'est pas des dizaines d'euros. Hein, donc effectivement, quand on fait fois 600 milliards. Ça. Donc voilà, c'est toujours des bonnes idées pour notre ministre des Finances qui cherche à économiser des milliards. Là, on peut en économiser beaucoup. EDF qui s'est lancé dans ses différents projets EPR en Angleterre, en Finlande et en Chine et qui en paye les retards, les frais financiers, ainsi de suite. EDF est déficitaire de, je crois, 50 quelques milliards, je ne sais plus exactement le chiffre. Donc c'est aussi pour ça qu'EDF a été entièrement renationalisé, puisque ça veut dire qu'on va pouvoir combler ça avec nos petits impôts, quoi. Ce qui est absolument rationnel, par exemple.
Ouais. On va revenir un petit peu, de toute façon, parce que on va regarder un petit peu tous les articles qui sont dans ce dossier, fatalement, on va revenir sur tous ces points, plus ou moins, qui ont été abordés. Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'en face, il n'y a pas une forte résistance. On a du mal à mobiliser sur cette thématique qui pourtant a porté beaucoup de militance dans les années 70-80. Et là, on a l'impression que la pilule est passée, tout le monde a plus ou moins accepté la chose. Je crois qu'il y avait une manifestation à Caen ce week-end et qui n'a pas été...
Dans le contexte actuel, on pourrait dire que c'était qu'il y avait quand même du monde, c'est-à-dire qu'il y a eu disons un petit millier de personnes. On a vu d'autres manifestations ou rassemblements qui mobilisent moins. C'est-à-dire que là, il y a quand même, même si évidemment on aurait aimé être encore plus nombreux, il y a quand même des gens donc qui se sont réunis à Caen en provenance de Rennes, de Rouen, de Paris, de tout le département de la Manche. Donc voilà, il y avait quand même du monde et de nombreuses associations, organisations différentes hostiles au nucléaire qui se sont rassemblées, puisque le nucléaire a été très, très... Les mouvements, les organisations hostiles au nucléaire ont été très divisés pendant de nombreuses années, ce qui a nuit à la mobilisation contre ça. Là, il y a depuis bientôt un an, une coordination nationale qui s'est mise en place et qui tente de fédérer un peu les énergies et les activités des différentes organisations aussi au nucléaire. Ouais, et cette manifestation en était un des objectifs.
Voilà, il y a un prochain rendez-vous le 26 avril, qui est la date anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl. Et donc, on appelle à une mobilisation nationale avec des actions... laissée à l'initiative des groupes locaux. Donc on peut espérer qu'il y aura pas mal de mobilisation à droite, à gauche en France. C'est quand même tout de même formidable parce que je lis, la France est l'un des pays les plus nucléarisés de la planète puisque s'y trouvent 56 des 444 réacteurs en activité. Donc on peut, par exemple, ici, on a la centrale de
Nogent-sur-Seine,
qui est à 100 bornes,
une petite centaine de kilomètres,
à vol d'oiseau. Voilà. Donc c'est quand même moi.
C'est pas loin.
Moi, si j'habitais Paris, j'aurais peur tous les matins. Bon, heureusement, j'habite loin à DC la soirée.
Oui, ça dépend si on est sous les vents dominants ou bas.
Oui, ça dépend. Voilà, évidemment, évidemment. Alors, dans ce monde libertaire, il y a un papier. Pardon, excusez-moi, j'en perds ma voix. Intitulé Le vrai faux retour du nucléaire, un vrai faux retour, et en sous-titre La course à l'abîme économique. Alors on a un petit peu abordé ça. C'est Stéphane Lhomme qui signe cet article, directeur de l'Observatoire du nucléaire, et qui nous dit pour perpétuer sa production nucléaire, EDF, ça tenez-vous bien, est aujourd'hui obligé d'investir des sommes colossales pour rénover presque simultanément tous ses réacteurs et prolonger ainsi leur durée de vie, tout en finançant la construction de nouveaux réacteurs. On saigne complètement EDF là.
Et le pauvre EDF, oui, il y a bien des soucis financiers.
Évidemment, la situation, nous dit cet article, n'est plus du tout la même, puisque dans les années 70-80, l'argent coulait à flot et que aujourd'hui, comme chacun sait, enfin si on écoute notre ami Bruno Le Maire, nous n'avons plus un sou. Il faut économiser des milliards. Alors, comment va-t-on faire? Parce que là, je vois que l'EPR de Flamanville, justement, qui devrait démarrer là incessamment sous peu, bien qu'on ne soit pas tout à fait sûr de toutes les soudures dans la cuve, on ne sait pas trop.
La cuve, on
le,
sait.
Le taux de carbone dans la cuve.
C'est-à-dire que l'autorité de sûreté nucléaire, donc, qui doit donner son autorisation, tamponnée comme ça, dire c'est bien. Alors, effectivement, ils ont émis un certain nombre de réserves sur la cuve. Et donc, même si la centrale est mise en route, il faudrait qu'il y ait une nouvelle inspection d'ici un an ou deux ans. Très
rapidement,
très
quand
approche.
Même, pour voir si
et
tout
donc,
ça a tenu.
Il vaudrait mieux attendre un an.
Ouais.
Comme ça, on pourrait faire la vérification. Elle serait plus facile à faire
que
de mettre du combustible et tout ça.
Et oui, parce que quand même, il s'agit tout de même d'un truc qui est l'EPR, donc à Flamanville, conçu au début des années 90. Il s'agit en fait d'un véritable dinosaure, nous dit l'auteur de cet article, Stéphane Lhomme. Donc la livraison était prévue à l'origine en 2012. Elle compte déjà plus de 12 ans de retard et son coût, alors là c'est formidable, son coût annoncé au départ à 2,8 milliards était estimé à 19 milliards par la Cour des comptes en 2020 et aujourd'hui il a assurément dépassé les 20 milliards. C'est carrément hallucinant.
Alors on peut trouver d'autres chiffres parce que le EDF communique sur d'autres chiffres. Alors il parle de que le coût, vraiment ça serait autour de 13 milliards, quelque chose comme ça. Mais en fait ils oublient les frais financiers. Parce qu'ils ont été obligés d'emprunter, puis enfin, les milliards qu'on emprunte, ça coûte un peu de pognon quand même. Mais en fait, le vrai coût total...
Ça en rapporte aux banques.
Oui,
au passage.
Du coup, ils pourront en donner un peu, enfin, généreusement, comme ça, c'est pas le genre des banques, ça. Et donc en fait, tout coût confondu, voilà, on arrive quand même pas loin des 20 milliards, ce qui est beaucoup.
C'est
fois 6, c'est bien.
C'est beaucoup.
Toi si tu fais un truc et ton projet coûte 6 fois plus cher, on te vire.
Ouais, en général, ouais, on me fout dehors. Oui,
même
oui,
un peu avant.
Oui. Et si aujourd'hui je paye ma baguette 1 euro et que demain on me demande 6 euros pour la même baguette, je vais parvenir dans
cette boulangerie. Tu vas changer
de boulangerie
normalement.
Ouais. Mais pas nous. pas avec le nucléaire.
Non, on n'a pas le droit.
Voilà. Et on fait la même chose, visiblement, en Angleterre, puisque, toujours Stéphane Lhomme nous dit, les dirigeants d'EDF ont acheté au prix fort British Energy en 2008 afin de construire en Angleterre deux EPR.
Absolument.
En jurant que les enseignements du chantier de Flamanville permettraient une réalisation respectant timing et budget. Voilà. Aujourd'hui, il est avéré que l'affaire tourne au même désastre. Début 2024, alors que le chantier avait déjà 4 ans de retard, et EDF a été obligé d'annoncer un nouveau retard de 2 à 4 ans. Autant dire que ce sera 4 ans, et voire bien plus encore. Et donc, il faut savoir aussi qu'en vertu des accords signés au départ avec Londres, c'est EDF qui va devoir couvrir les surcoûts du chantier.
Donc, eh oui.
Il est perdant dans tous les cas, mais il s'entête.
Ben oui, mais j'étais tellement sûr de leur coût, j'imagine, hein, que j'ai dit non, vous inquiétez pas, si ça dépasse, c'est pour nous. Mmh. Hein, c'est perso, ça fait plaisir. Et donc du coup, c'est comme on dit, c'est nous qu'on paye.
C'est ça, c'est ça. Oui, ben ça, de toute façon, on a l'habitude.
Oui, enfin...
Là, c'est un peu cher, la note est un peu... La note est un peu salée, oui. Voilà, et alors, en tout cas, on sait déjà qu'on aura des problèmes, comme des vibrations, dont EDF est toujours incapable de déterminer la provenance. Donc, on va voir si ça va vibrer fort, pas trop fort.
Ça va vibrer. Et ce qui est assez probable, c'est que, puisqu'il y a, c'est quand même des réacteurs de très forte puissance, on parle de 1600 mégawatts, donc ça serait à Flamanville en tout cas le plus puissant du parc français. Et donc on peut imaginer que sans doute ça va démarrer à un moment, il va y avoir une certaine montée en puissance. Peut-être que pour pouvoir faire cocorico, il va arriver à pleine puissance et très probablement il redescendra très vite à des régimes un peu plus raisonnables pour, voilà. Prendre moins de risques.
Mais ce qui va peut-être nous sauver et nous sortir de cette galère, c'est les petits réacteurs modulaires qu'on appelle les SMR. Et donc, ça, alors, visiblement, il y a le projet réellement avancé prévu aux USA vient d'être abandonné, hein, puisque tous ses clients potentiels se sont retirés pour raisons financières. Alors, bon, les petits réacteurs modulables, c'est un peu la Twinnie du nucléaire, quoi.
Ça pourrait être un peu ça. Alors, je pense qu'il y a un peu l'idée aussi, parce que bon, les centrales, je pense globalement, les gens se méfient un petit peu. Bah ça,
oui,
c'est
oui.
Gros, c'est même pas très joli dans le pays.
Là, c'est small is beautiful.
Voilà, tout ce qui est petit est gentil, c'est comme nous, oui, on n'est pas très grand, donc on est gentil. Et donc ça va mieux passer. Mais alors, effectivement, comme Stéphane Lhomme le dit dans son article, ce projet New Scale vient d'être abandonné. Parce que les Américains qui ont certains défauts, mais en tout cas, ils savent compter. Et ils ont fait leur compte, ils se sont dit, c'est une catastrophe, ça ne marchera jamais. Et donc, voilà, ils ont abandonné le projet.
Voilà.
Je sais qu'il y a un autre, c'est plus récent, mais un rapport qui a été émis en France, je ne sais plus trop où, mais en tout cas, qui fait à peu près le même constat, c'est qu'en gros, tout ça, d'un point de vue financier, c'est la cata.
Voilà. Et puis alors, cerise sur le gâteau, étant donné que tout ça coûte très très cher, beaucoup trop cher, eh bien, la France néglige les budgets sur les énergies renouvelables, évidemment.
Ben oui, ce qu'on met d'un côté, on ne peut pas le mettre de l'autre.
Ah oui,
un moment,
c'est ça. Voilà. Je rappelle que la France n'est pas riche. Bon, on fait une petite pause musicale et puis on se retrouve tout à l'heure. Et on parlera de Thatcher, tiens.
Margaret.
Alligator 427 aux ailes de cachemire safran, je grille ma dernière cigarette, je vous attends. Sur cette autoroute hystérique qui nous conduit chez les mutants, j'ai troqué mon cœur contre une trique, je vous attends. Je sais que vous avez la beauté destructive et le sourire vainqueur jusqu'au dernier soupir. Je sais que vos mâchoires distillent l'agonie. Moi je vous dis bravo et vive la mort. Alligator 427 à la queue de zinc et de sang, je me tape une petite reniflette. Je vous attends. Dans cet étrange carnaval, on a vendu l'Homo sapiens pour acheter du Néandertal. Je vous attends. Et les manufactures ont beau se recycler, il n'y aura jamais assez de morphine pour tout le monde. Surtout qu'à ce qu'on dit, vous aimez faire durer. Moi je vous dis bravo et vive la mort. Alligator 427 au long regard phosphorescent, je mouche mon nez, remonte mes chaussettes. Je vous attends. Et je bloque mes lendemains, je sais que les mouches s'apprêtent autour des tables du festin. Je vous attends. Et j'attends qu'il se dresse au prochain charnier. J'ai raté l'autre guerre pour la photographie. J'espère que vos make-up seront bien faisandis. Moi je vous dis bravo et vive la mort. Alligator 427 aux crocs venimeux et gluants, je donne un coup de brosse à mon squelette. Je vous attends. L'idiot du village fait la queue et tend sa carte d'adhérent pour prendre place dans le grand feu. Je vous attends. J'entends siffler le vent au-dessus des calvaires et je vois les vampires sortir de leur cercueil pour venir saluer les anges nucléaires. Moi je vous dis bravo et vive la mort. Alligator 427 aux griffes d'or et de diamants, je sais que la ciguë est prête. Je vous attends. Je sais que dans votre alchimie, l'atome, ça vaut des travelers chèques et ça suffit comme alibi. Je vous attends. À l'ombre de vos centrales, je crache mon cancer. Je cherche un nouveau nom pour ma métamorphose. Je sais que mes enfants s'appelleront vers de terre. Moi je vous dis bravo et vive la mort. Alligator 427 au cerveau de jaspe et d'argent, il est temps de sonner la fête. Je vous attends. Vous avez le goût du grand art et sur mon compteur électrique j'ai le portrait du prince ringard. Je vous attends. Je sais que désormais vivre est un calembour. La mort est devenue un état permanent. Le monde est aux fantômes, aux hyènes et aux vautours. Moi je vous dis bravo et vive la mort. Vive la mort. Vive la mort.
Alligator 427, c'était Hubert Félix Thiéphen. Vous écoutez le Tour du Monde Libertaire sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste.
Voilà, et nous faisons donc le Tour du Monde Libertaire 1860 d'avril 2024 à paraître avec son dossier contre le nucléaire et son monde dont nous parlons maintenant avec Nicolas qui a grandement participé à ce dossier et au petit livre que les abonnés recevront avec le Monde Libertaire. Abonnez-vous, vous aurez des cadeaux. Bon, Voilà. Alors, là, on a un article de Philippe Pelletier qui nous explique comment tout ça est arrivé et pourquoi il essaye de tirer les ficelles, nous expliquer. Alors, il nous explique que Margaret Thatcher arrive au pouvoir britannique en mai 79. La feuille de route qu'elle donne à Lord David Howell, nommé au secrétariat à l'énergie, la feuille de route qu'elle lui donne, c'est 1. Se protéger du deuxième choc pétrolier et de son inflation, 2. Éliminer le communiste Arthur Scargill à la tête du puissant syndicat des mineurs, le NUM, qui était sorti vainqueur des grèves de 1972 et 1974, relancer le programme électronucléaire avec l'idée d'ouvrir chaque année une centrale nucléaire pendant 10 ans. Voilà. Et donc, en 79, eh bien, le secteur électronucléaire britannique est mal en point après avoir été le bon élève du programme, c'est drôle, Atom for Peace, lancé en 1953 aux Nations Unies par le président américain Eisenhower. Il sera le premier au monde jusqu'en 69 avant d'être détrôné par les États-Unis, suivi par la France. Suite à de mauvais choix technologiques et économiques, Thatcher veut mener l'affaire au pas de charge. Son objectif est double, diversifier les sources d'énergie et privatiser ces secteurs selon une logique néolibérale anti-monopolistique qui profite à quelques grands groupes privés nationaux ou multinationaux. Mais le programme électronucléaire de Thatcher rencontre quelques difficultés. Il semble moins impératif compte tenu des ressources tirées des hydrocarbures en mer du Nord. Mais Thatcher tient bon et pour cela, elle mobilise la question climatique. Parmi les personnes qui l'inspirent, Crispin Tickell, un diplomate qui a fait des études d'histoire et de politologie, se pique de climatologie au milieu des années 80. Il contribue à persuader la première ministre Margaret Thatcher que le réchauffement global était un problème qui méritait et son attention et des subventions généreuse. Que dire de cet article de Philippe Pelletier?
Ce qui est intéressant dans cet article, ce que Philippe Pelletier démontre, c'est la manière dont cette question émergente du réchauffement climatique, qui n'a pas encore gagné les esprits absolument...
Alors, je rappelle qu'on est au début des années 80,
voilà,
on va
début
dire.
Des années 80. Voilà, ouais. Et c'est de voir comment elle va émerger, à partir de quelles instances elle va être recommandée, et comment Margaret Thatcher va utiliser ce prétexte,
cet argument,
pour mettre en avant et financer largement l'industrie nucléaire britannique. C'est-à-dire, Philippe Pelletier, notamment, s'est beaucoup intéressé à la manière dont les instances qu'on connaît, il y a le Club de Rome assez anciennement, et puis un peu plus tard, le GIEC qu'on connaît toujours aujourd'hui, et comment ces instances ont émergé, et quelles ont été leurs compositions. Et il se trouve que ce que Philippe Pelletier a montré dans plusieurs articles, dans différents livres, c'est qu'en fait, dans les gens qui composaient ces instances, il y avait en fait beaucoup de gens tout à fait pro-nucléaires et qui, montrant l'évolution du climat, montraient aussi, enfin, pointaient l'usage de l'énergie nucléaire comme un remède possible à cela.
Mais alors, on pourrait, alors allons jusqu'au bout du délire. Est-ce qu'on pourrait en conclure que cette histoire de réchauffement climatique, c'est une farce et que ça a été monté de toutes pièces par les capitalistes, les pires de la pire espèce, et on nous aurait trompés?
Tu me mets dans une situation délicate.
oui, voilà.
Je pourrais t'accuser de climato-scepticisme.
Exactement. Voilà, ce qui vaut, oui, mais est-ce que...
Ce qui vaut excommunication.
Voilà. Alors, ce que je viens de lire là pourrait nous amener à penser que peut-être, effectivement, on a monté ça de toutes pièces.
Ou que Margaret Thatcher était tout à fait précurseuse, je ne sais pas comment on dit exactement, voilà, dans ce domaine, et qu'elle a vu loin, et que peut-être elle a pensé à tout ça avant les autres. le fait est qu'on sent quand même une utilisation
d'instrumentalisation,
une
espèce d'effet d'aubaine.
Voilà, de quelque chose qui se passe, qui arrive, qu'on peut constater. Alors, bon, à d'autres moments, au début des années 70, il y a d'autres scientifiques qui redoutent un refroidissement, parce qu'il y a eu des années un peu plus froides. Bon, là, il y a une période, effectivement, qui semble marquer clairement une évolution du climat vers les températures plus chaudes. Mais il ne s'agit pas de chercher à contester ça, mais c'est d'essayer de bien montrer comment, en accentuant de plus en plus sur le CO2 responsable du réchauffement climatique, tout ça, ça a contribué à faire rentrer dans les consciences le fait que le nucléaire était la solution. Quand effectivement, c'est-à-dire au point que certains écologistes aujourd'hui ou se revendiquant comme tels peuvent défendre le nucléaire comme une solution possible ou de transition, au point que Greta Thunberg a dit il n'y a pas si longtemps qu'on aurait tort de se priver du nucléaire pour voilà, à partir du moment où on ne se focalise uniquement sur la production de CO2, le nucléaire paraît comme une solution possible.
Une solution,
alors
oui,
que on a échangé dans Trou Noir juste avant avec Yves Lenoir, qui nous a bien expliqué tous les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl, et on voit bien que ce n'est pas fortuit.
Mais en tout cas, Philippe Pelletier enfonce le clou. En novembre 88, le GIEC tient sa première réunion à Genève. Bert Bolin, météorologue suédois farouche partisan de l'électronucléaire, en devient le président. Voilà, par exemple. Donc là, il y a un côté trotskiste là-dedans, hein.
Qu'est-ce que tu veux dire par là ?
Ouais, pour moi, c'est ça, c'est de l'entrisme finalement. Hein. On crée un comité d'experts pour étudier le climat. On fait rentrer des pro-nucléaires là-dedans. Et on récupère le...
Et ils trouvent les bonnes solutions.
Et ils trouvent les
scientifiquement.
Les bonnes solutions.
Ouais, ouais.
Voilà.
Alors, effectivement, ce que rappelle quand même Philippe Pelletier dans l'article, c'est que le GIEC est quand même une création du G7.
Ouais.
Qu'il y a quand même un lien entre le grand capitalisme mondial et la création du G7.
Donc, voilà. En tout cas, c'est un article donc à retrouver dans ce dossier.
Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on imagine que une création du G7 ne va pas, par exemple, parler de décroissance.
Oui, il y a peu de chance, évidemment. Bon, alors maintenant on va parler un petit peu des accidents, puisque j'ai un papier là sous les yeux, de perspective dans le brouillard, interminable accident de Fukushima Daiichi. Et c'est un article signé Colin Kobayashi. Voilà. Et qui nous dit, nous entamons la 13e année de l'accident nucléaire à Fukushima Daiichi et il n'est pas terminé. On est toujours sous l'état d'urgence nucléaire. Le processus post-accidentel se heurte encore à des difficultés majeures. En fait, il n'y a pas de perspective claire pour le démantèlement de la centrale. TEPCO prévoit d'extraire le corium, mais les robots qui ont été utilisés n'ont pas fonctionné et d'autres sont en cours de développement. Mais le plan actuel d'extraction robotique doit être reconsidéré. Le démantèlement prendrait entre 100 et 300 ans, selon le dernier rapport de la Société de l'énergie atomique, soit une durée nettement supérieure aux 40 ans prévus initialement. Donc en fait, le nucléaire, ça marche dans les deux sens. Quand on crée une centrale, on perd du fric et ça met 3000 ans. Et quand elle pète, on met 3000 ans pour tout réparer.
Et en plus, quand ça marche pas pour très très longtemps. Hein, puisque les actuelles centrales françaises étaient prévues pour 30 ou 40 ans. Alors on va essayer de les prolonger bien plus, jusqu'à 60 ans. Certains ministres, je crois, rêvaient des 80 ans. Donc ça fait un peu peur. Tout ça s'use un peu quand même. Et puis, je ne sais plus ce que je voulais dire.
Ben, en tout cas, je reviens à ce papier qui nous dit que c'est juste affolant. Hein. La contamination radioactive du dernier étage des bâtiments de trois réacteurs causée par la fusion du cœur, notamment autour des couvercles de réacteurs, est énorme, entre 20 000 et 40 000 térabécquerels. Alors, c'est Je suppose que c'est énorme, je n'y connais rien, je ne sais pas. Mais ça semble être...
Les unités de mesure, j'ai du mal à les appréhender effectivement, mais tel que c'est dit, c'est tout à fait énorme. Et ce que ça nous fait comprendre, c'est que, on en a aussi parlé avec Yves Lenoir juste avant, c'est-à-dire qu'on a tendance à penser qu'à un moment, un accident c'est fini. Un accident industriel habituel, même important, bon, il y a un moment, voilà, on a tout rangé, les victimes, il y a eu tant de victimes. Les accidents industriels nucléaires, les deux dont on parle, Fukushima comme Tchernobyl, sont toujours en cours.
Voilà. Et d'ailleurs, des ouvriers chargés de la remise en état après l'accident travaillent encore là aujourd'hui sous l'effet des radiations. Bon, l'eau est rejetée beaucoup trop tôt par rapport à ce qui serait acceptable. Bref, on met la poussière sous le tapis.
Oui, puis il y a quelque chose que Colin Kobayashi dit dans l'article qui est très très intéressant, c'est que alors effectivement on a appris que puisque donc l'eau puisée dans la mer qui est plutôt froide est le seul moyen de refroidissement de masse un peu pour toutes les matières qui pourraient s'emballer à nouveau et provoquer des accidents encore plus graves. Cette eau, quand elle a servi à refroidir, est contaminée. Et en attendant de la remettre dans le circuit de mer, ce qui n'est pas très bon, en tout cas, on la garde un certain temps en attendant qu'elle soit moins contaminée. Et il y a eu un certain rapport qui, finalement, a autorisé le site de TEPCO, l'industriel TEPCO, à rejeter plutôt que prévu. Il y avait un accord qui disait qu'il devait obtenir l'accord du syndicat des pêcheurs du coin. Et finalement, ils s'en sont affranchis. Et donc, on a entendu jusqu'ici que TEPCO avait rejeté en mer une très très grande quantité de...
Contre l'avis de ce fameux syndicat de pêcheurs.
Absolument. A rejeté en mer une très très grande quantité d'eau contaminée, notamment contaminée au tritium. Et ce que nous dit Colin Kobayashi dans l'article, c'est qu'en fait, concernant cette quantité d'eau contaminée au tritium rejetée chaque année, à La Hague, on rejette à peu près une fois et demie ce qui a été rejeté à Fukushima chaque année.
C'est ça.
Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que on le sait guère ou on ne s'en émeut pas. C'est pas, on n'en fait pas une
Mais
grande publicité.
Il n'y a pas eu d'accident, donc on ne regarde pas.
Voilà. Et puis c'est très difficile de mesurer dans les eaux de la Manche qui sont où il y a des courants très très puissants. Mais ce que dit Colin, c'est que le silence des Français par rapport à ça vaut acceptation de ce qui se passe au Japon. C'est-à-dire, on peut s'émouvoir comme ça dans les médias en disant oh, ils rejettent ça, mais en fait on tolère bien pire que ça.
Ouais. Alors il y a également dans ce monde libertaire. Alors tout de même, parce qu'il faut, vous voyez, dans nos émissions, on met un petit peu de musique comme ça quand on parle beaucoup parce qu'il faut aérer. Alors dans le monde libertaire, on met pas de musique parce que c'est un journal, mais on met une bande dessinée. Et je vous conseille page 30, les causeries éducatives du professeur Crouton, qui nous conte les bienfaits du nucléaire. Vous verrez, ça vaut le détour. Et puis, juste avant cette bande dessinée, un papier intitulé « La politique nucléaire française vue par les mouvements antinucléaires de l'espace germanophone ». Et où on apprend les liens les liens étroits entre la France et la Russie en matière d'atomes.
Absolument, c'est un des... Donc, j'avais demandé cet article à Lou Marin, qui est franco-allemand, et puis qui a longtemps milité en Allemagne contre l'atome. Et, parce que je trouvais intéressant qu'il y ait aussi des... On a voulu nous faire croire que le nucléaire pouvait s'arrêter aux frontières. On sait que ça ne marche pas comme ça. Et de fait, les décisions qui sont prises en France concernent toute l'Europe, éventuellement au-delà. Donc je trouvais intéressant d'essayer c'est de savoir un peu comment les Allemands, par exemple, perçoivent tout ça. Et donc, le Loup Marin a fait cet article où il résume un peu ce qu'ont été les luttes antinucléaires allemandes, lesquelles ont tout de même contribué à l'abandon du nucléaire par les autorités allemandes, ce qui est quand même un succès qu'on aimerait bien obtenir. Et puis, effectivement, il explique un certain nombre de choses, c'est-à-dire que notamment, pendant les affaires, alors qu'on dit que toute relation commerciale et autres est rompue entre l'Europe et la Russie, eh bien, on apprend qu'il y a que sur le territoire allemand, un endroit qui s'appelle Lingen, il y a une entreprise qui est en fait une joint venture entre Framatome, entreprise française, et Rosatom, le géant mondial du nucléaire russe, et qui travaille à l'enrichissement des combustibles, voilà, dont nous avons fort besoin, ce qui n'est pas tout à fait une preuve d'indépendance.
Voilà. Donc ça, c'est à lire dans le Monde Libertaire du mois d'avril, le Monde Libertaire à paraître dans quelques jours. Et puis, un autre papier, la brève histoire de la gare de Luméville qui est menacée d'expropriation. Alors là, c'est encore une histoire de chevelus barbus qui ont envahi une vieille gare désaffectée, juste pour embêter l'Andra.
Absolument.
C'est bien ça. J'avais bien compris. Alors ces gauchistes, écolo-radicalisés, terroristes organisent régulièrement des grands rassemblements, des grandes fêtes là-bas, et c'est à lire donc également dans le Monde Libertaire. Et puis un article sur Bure. Alors ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que l'auteur de l'article qui signe un opposant à Cigéo et son monde. Nous dit « Avant de m'installer en Meuse, je n'avais jamais entendu parler des villages détruits de la Première Guerre mondiale. Ils sont des dizaines le long de l'ancienne ligne de front, mais les 9 situés au-dessus de Verdun constituent une exception nationale, presque une anomalie administrative. Ils ont disparu, mais continuent d'exister officiellement. Il y a même un maire qui est désigné par le préfet régulièrement, et donc qui règne sur une municipalité qui n'existe pas, qui n'a pas de budget, où il ne se passe rien, puisqu'il n'y a pas d'administré. Donc, il a appris cette histoire en allant se promener il y a quelques années dans les forêts qui ont supplanté les champs de bataille autour de Verdun. Et il se demande si, du côté de Bure, ça finira pas comme ça. Hein, on commence à Bure, si ça doit démarrer un jour, il n'y aura pas de fin. Et oui, c'est ça, hein, parce que c'est ce qui nous explique. Quand vous avez un chantier, on va construire une usine à côté de chez vous, ça va être une vraie galère pendant quelques mois. Et puis une fois qu'elle est construite, le chantier c'est fini. Mais là, ça ne s'arrête jamais, puisqu'il s'agit d'amener des déchets, de les enterrer, sécuriser tout ça. Donc ça veut dire des infrastructures pas possibles et des camions sans arrêt, ou des trains plus des camions, etc., etc. Et pour des centaines d'années.
Voire des milliers,
soyons positifs.
Et donc ce qui est décrit dans l'article, c'est aussi que, de même que la Première Guerre mondiale a effacé certains de ces villages, le CIGEO, enfin voilà, tout ce projet, a donc à l'Andra a préempté, a acheté des terres et envisage effectivement de détruire les habitations pour faire en sorte qu'il n'y ait plus personne sur ces territoires. Donc on va détruire, raser des maisons et à terme sans doute des villages.
Alors, il y a un autre papier dans ce dossier intitulé « Féminisme et nucléaire, ma terre violentée ». Et c'est l'interview de Xavier Gauthier que l'émission « Femmes libres », j'ai pas la grille sous les yeux, mais c'est le jeudi. C'est quand ?
Je crois que c'est le jeudi.
Je crois que c'est le mercredi soir, à 18h ou 18h30, là j'ai un doute.
Ah bon, on a tous un doute, mais enfin, l'émission Femmes Libres, les auditeurs et les auditrices connaissent encore mieux que nous la grille, j'en suis certain, puisque c'est une émission importante et qu'on évite de rater en général, là, quand on est fervent auditeur ou auditrice de Radio Libertaire. Donc l'émission Femmes Libres avait reçu Xavier Gauthier le 6 juillet 2022 pour la présentation de Retour à la Hague, Féminisme et nucléaire, fruit d'une mise en perspective d'un texte qu'elle avait écrit en 81, La Hague, Mater violentée. Et c'est intéressant le parallèle qu'elle fait, parce que elle nous dit, bah oui, féminisme et lutte antinucléaire, on pourrait même dire et lutte écologiste finalement, ben c'est la même chose. Ça renvoie un peu à la notion des natifs d'Amérique qui parlent de la terre-mère. Mmh. Hein, et voilà, donc c'est cette interview qui est à retrouver donc dans Le Monde Libertaire. Deux mots là-dessus peut-être.
Très belle interview.
Oui.
Et ce qui est intéressant, c'est que ça fait écho à des mobilisations un peu anciennes, mais qui vont peut-être ressurgir sur ces mêmes territoires, donc du Nord-Cotentin autour de La Hague, puisqu'il y a un projet d'extension des piscines de refroidissement qui sont situées à La Hague.
Oui, parce qu'il faut rappeler que les déchets à La Hague viennent de partout.
Absolument.
Hein, c'est pas nos centrales françaises uniquement.
On est très accueillants.
Voilà.
On est
plus accueillant avec les déchets nucléaires qu'avec les étrangers.
Je n'aurais pas osé le dire, mais je crois qu'il y a un fond.
Il faut dire les choses comme elles sont.
Disons les choses. Et donc la population du Nord-Cotentin trouve que quand même on commence à les prendre un peu pour une poubelle et que ça va peut-être bien suffire. Et donc il y a une mobilisation qui commence aussi contre ces projets de nouvelles d'extension des piscines de refroidissement de La Hague.
Voilà, en tout cas cette interview qui nous rappelle aussi d'ailleurs que la France dépend de la Russie justement pour le retraitement des déchets radioactifs, car le géant nucléaire russe Rosatom marche, comme on l'a dit tout à l'heure, main dans la main avec la France. Il a un carnet de commandes de 33 centrales nucléaires nouvelles dans le monde et Vinci, Bouygues, Dassault sont directement impliqués. Ah, ça c'est la France, non ? Voilà. Alors, moi je vous propose qu'on s'écoute une petite chanson et puis on se retrouve juste pour conclure. Allez, c'est parti.
À 10 lieues sous les mers, au large des côtes de Honshu, un soudain tremblement de terre, annonciateur de sombres jours. La grande vague nous est venue, nous a enveloppés en son sein. L'océan nous a marché dessus, nous a croqués comme un requin. La terre chérie par leurs aïeux, ils lui ont tourné le dos. Notre sol est souillé, peut-être pour l'éternité. Le goût de nos fruits est amer, mais moi seul suis là pour les manger. Fukushima, mon amour, je sens ton poids.
Je ne t'en veux pas, mon amour, tu le sais.
aiment jouer avec le feu, pourvu que le feu soit avant. À l'abri du terrain de jeu, tellement loin des flammes et des cendres. Je marche sur des braises radioactives, je le sais bien. Je vois du haut de ma falaise l'océan qui me tend la main.
Fukushima, mon amour, c'était HK et les Saltimbanques. Dans le Tour du Monde Libertaire sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste.
Et dans ce Tour du Monde Libertaire, eh bien, on parle de ce numéro 1860 d'avril 2024 à paraître. Et je vous rappelle que si vous êtes abonné, vous allez recevoir un petit livre en plus de votre Monde Libertaire mensuel, un petit livre intitulé La pieuvre nucléaire. La pieuvre nucléaire, donc, aux éditions du Monde Libertaire. Et c'est donc au réseau Macno que nous devons ce petit livre, qui sera après pour les autres, vous pourrez l'acheter. Vous pouvez déjà le trouver à Publico, 5 euros pour vous informer et vous faire une opinion et vous faire des arguments aussi pour aller porter la contradiction parfois quand il le faut. Ce petit livre, La pieuvre nucléaire, c'est pas le seul titre des éditions du Monde Libertaire. Hein.
Alors celui-là, La pieuvre nucléaire, sera dans les autres librairies à partir de la mi-avril, le 14 avril, je crois. Et deux autres titres sont d'ores et déjà disponibles, publiés par les éditions du Monde Libertaire. Le pouvoir selon Google, suivi du guide pratique pour boycotter Google, de Philippe Godard. Vous pouvez le trouver à Publico. Et puis, La décroissance libertaire, une étape cruciale, de Jean-Pierre Tertrais. Là aussi, le livre vient de sortir et vous pouvez le trouver à la librairie Publico avant qu'il ne soit dans toutes les autres librairies de France.
Voilà, et je rappelle que tous ces livres des éditions du Monde Libertaire sont, et c'est un choix, extrêmement abordable. Hein. Je crois que dans les titres qu'on a cités, le plus cher, c'est 10 euros. Et par exemple, La pieuvre nucléaire, je rappelle, 5 euros. Voilà, c'est intéressant. Je rappelle aussi, tout à l'heure, on a parlé de Lou Marin. Il sera présent à Publico le 27 avril prochain pour y partager l'expérience des luttes anti-nucléaires non violentes en Allemagne. Donc c'est intéressant. Peut-être que ça nous donnera des idées pour relancer...
Comment lutter, absolument.
Voilà.
Et justement, dans le cadre un peu de ces animations contre le nucléaire à la librairie Publico, le 24 avril, nous recevrons Roland Desbordes, donc le porte-parole de la CRIRAD. Donc il nous racontera l'activité de la CRIRAD et je pense qu'il parlera aussi du projet de la CRIRAD d'installer une sonde au niveau de Paris ou de la région parisienne pour mesurer les éventuels rejets issus de la centrale de Nogent-sur-Seine ou des autres qui sont en Normandie, qui ne sont pas très loin.
Qui ne sont pas très loin et voilà. Le vent souffle vers nous.
Voilà, pour le coup, il souffle vers nous. Et puis, on fera aussi une présentation de ce livre, La pieuvre nucléaire, en public le 26. Et il y aura une exposition aussi réalisée à partir d'affiches anciennes de la Fédération anarchiste, appelant à se mobiliser contre le nucléaire, et puis aussi d'autres organisations d'ailleurs.
Donc tout ça à Publico.
Voilà.
On rappelle les dates ?
Alors, le Roland des Desbordes et la Crirade, c'est le 24.
24.
Présentation de la Pieuvre nucléaire par le réseau MacNo, c'est le 26. Et Loup Marin pour...
Le 27.
C'est le 27, absolument.
Voilà, donc 24, 26, 27 à Publico. Voilà. Sans oublier l'expo, je suppose...
Qui sera là à partir du début du mois.
Voilà, pour le mois d'avril.
Absolument.
Voilà, très bien. Eh bien, merci beaucoup, Nicolas. En plus, tu as fait des heures supplémentaires, parce que tu étais dans Trou Noir tout à l'heure. Merci beaucoup de m'avoir encore donné de ton temps. On continue à faire le tour du monde libertaire, on referme le dossier nucléaire et on passe aux pages réflexions. Claude Strano du groupe Enza Sicardi nous livre les siennes sur la question du consentement dans un article intitulé « Ne consentez jamais ». Mourir dans la dignité, Jean-Marc Reynaud aborde cette question et signe un article qui s'intitule « Ultime non-liberté de mourir dans la dignité, trou noir de la pensée, plutôt crever ». Et puis agriculture, alors là c'est Ramon Pinault qui nous écrit « En Espagne comme ailleurs, le problème c'est le capitalisme en matière d'agriculture. Ces derniers mois, enfin, en matière d'agriculture entre autres. Ces derniers mois, on a pu assister à une mobilisation des agriculteurs partout en Europe, ici en France, en Allemagne, en Belgique, en Italie, en Espagne. Explosion de revendications concernant leurs revenus, contestant les diktats de la grande distribution, les normes décrétées par l'Union européenne, la paperasserie à remplir, etc. Mais pas de remise en cause du système capitaliste responsable de la situation ubuesque dans laquelle se trouve le monde paysan. Avec cet article de Ramon Pinault, regardons de plus près la situation de l'autre côté des Pyrénées et plus particulièrement l'Andalousie, potager de l'Europe, avec son agriculture sous plastique qui fournit 3,5 millions de tonnes de fruits et légumes. Jean-Jean de Garrigue, de son côté, nous offre un sondage, un peu comme un jeu des sept erreurs. Et puis, ça je vous le laisse découvrir, je vous en parle pas. Et puis, toujours dans les pages réflexion, Gilbert Daugé nous offre cet article intitulé « Les poètes du mouroir ». J'ai pensé longtemps que la poésie, à l'instar de certaines espèces animales, était de nature indomesticable. Et je dois dire que ma naïveté a fini par en prendre un sérieux coup. La poésie qui ne tenait à rien à présent est tenue en laisse, est promenée et gérée par des instances culturelles dont les appellations même en sont la négation. Marché de la poésie. Marché de la poésie. Maison, au pluriel, de la poésie. Printemps des poètes, etc. Aussi est-elle devenue non seulement une inoffensive et misérable activité, mais encore elle se présente sous des formes pacifiées et normées. Il apparaît même que des coteries se soient données pour tâche de fixer des règles quant à la bienséance, d'imposer une certaine normalisation du vocabulaire et des images s'il y en a. Ah, François Villon revient. Une bande dessinée que nous devons à MLT et OLT nous conte dans ce monde libertaire d'avril le parcours du syndicaliste et libertaire Georges Cochon et l'histoire du mouvement des locataires. Et puis dans les pages culture, Ramon Pinault s'intéresse à la décolonisation des musées. Nouvelle polémique en Espagne autour des déclarations du ministre de la Culture Ernest Urtasun y Domènech, issu de la gauche écologiste, Izquierda Verde, gauche verte, et gauche verte, est nommé à ce poste il y a 5 mois par Pedro Sanchez dans son 3e gouvernement. Urtasun lance le débat sur la décolonisation des musées. S'agit-il de rendre certaines œuvres aux pays d'Amérique latine d'où elles ont été pillées par les conquistadors espagnols? Nul ne le sait, d'autant plus qu'aucune demande officielle n'a été formulée. Lire l'article de Ramon Pinault dans Le Monde libertaire de ce mois d'avril à paraître. On a, je crois, on n'a pas le temps. Enfin, je vais voir. Une petite chanson, alors, une toute courte. Allez, c'est parti.
Dans une terre grasse et pleine d'escargots. Je veux creuser moi-même une fosse profonde où je puisse à loisir étaler mes vieux os et dormir dans l'oubli comme un requin dans l'onde. Je hais les testaments et je hais les tombeaux. Plutôt que d'implorer une larme du monde vivant, j'aimerais mieux inviter les corbeaux à saigner tous les bouts de ma carcasse immonde. Ô ver noir compagnon, sans oreilles et sans yeux, voici venir à vous un mort libre et joyeux. Philosophe viveur, fils de la pourriture, voici venir à vous un mort libre et joyeux. À travers ma ruine, allez donc sans remords, et dites-moi s'il est encore quelque torture pour ce vieux corps sans âme et mort parmi les morts. Pour ce vieux corps sans âme et mort parmi les morts.
Le mort joyeux, c'était Louis Capard dans Le Tour du Monde Libertaire sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste.
Et donc dans ce Tour du Monde Libertaire, bien entendu, comme chaque mois, des conseils de lecture, des recensions, à commencer par celle de Yannick de la liaison FA de Haute-Vienne, Fédération Anarchiste de Haute-Vienne, à propos du livre de Roberto Martinez Catalan, Destination Saragosse, chronique de la colonne d'Urruti aux éditions du Coquelicot, Toulouse. Une chronique pour la mémoire et l'avenir, nous dit Yannick. Et puis celle de Ramon Pino dans L'œil de l'archange d'Olivier Weber chez Kalman Lévy. Une fresque sur cette guerre civile espagnole, prélude à la Seconde Guerre mondiale. Engagement et liberté. Florence de Radio Libertaire a lu pour nous de Yann Lyotard, Juste le temps de vivre aux éditions Arléa. Tout ça est à retrouver dans le monde libertaire, alors je ne m'étale pas, puis de toute façon je n'ai pas le temps, on a pris du temps pour parler du nucléaire et c'était important. Alors pas de réclamation, pas de courrier insultant, rien du tout, hein, je ne veux rien entendre. Pérégrination prolétarienne. Hugues du groupe Commune de Paris nous conseille le livre de Alberto Prunetti, Odyssée Lumpen, Luxe, éditeur Québec 2024. Le vrai visage de l'industrie agroalimentaire. Yannick, toujours lui, de la Haute-Vienne, nous recommande Les frites viennent des patates, dans les coulisses de notre alimentation et de l'agro-industrie, de Laure Ducosse aux éditions Grasset 2024. Allemagne, année zéro. Sylvain Boulouk nous invite à lire d'Emmanuel Droit, La dénazification, post-histoire du Troisième Reich. C'est au PUF 2024. Maudite soit la guerre et la France, à cheval sur le vent de Patrick Péchereau aux éditions Bruno Doucet 2024, est un portrait attachant de Xavier Gral, poète breton, au retour de sa période de rappel en Algérie en 1962. C'est une lecture conseillée là encore par Yannick de la Haute-Vienne qui décidément ce mois-ci a lu beaucoup. Pour finir, professeur de toutes les écoles, unissez-vous. Hugues du groupe Commune de Paris nous conseille un livre de Frédéric Grimaud, Enseignant les nouveaux prolétaires, ESF Paris 2024. Comme chaque mois, Monica Jornet nous offre son poème en noir, Street Art, Free Art, en est le titre ce mois-ci. Toujours dans ce monde libertaire d'avril, bien entendu les nouveautés de la librairie Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement, métro Oberkampf ou Fille du Calvaire. La dernière page du Monde Libertaire vous donne les contacts des groupes de la Fédération Anarchiste et la DER de Couve est un montage des unes anti-nucléaires du Monde Libertaire. Et chère Monique, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Nous avons le temps d'écouter une chanson avant d'envoyer le générique.
T'es d'accord ou pas?
Ouais.
Ah, ok.
C'était l'opus du chien, la tordue, dans le tour du monde libertaire sur Radio Libertaire 89.4.
Alors, cher Nicolas, il nous reste une minute et demie, deux maximum.
Une petite annonce.
Pour annoncer justement un colloque.
Voilà, qui lui-même est annoncé dans le monde libertaire, donc je ne dévoile rien. Un colloque, ce sera le 27 avril 2024, évidemment. Éducation autogestionnaire, coopérative et libertaire, divergences et convergences. Ça va se passer toute la journée de 9h30 jusqu'à assez tard dans la soirée. C'est organisé par le groupe Commune de Paris de la Fédération anarchiste. Et ça se tiendra à l'espace AERI, 57 rue Étienne Marcel à Montreuil, métro Croix de Chavaux.
Voilà, si vous ne l'avez pas noté, c'est dans le monde libertaire.
Voilà, et puis je pense que d'autres émissions auront l'occasion de vous en parler prochainement.
Voilà, Monique voulait intervenir.
Oui, et en plus, ce sera en direct sur Radio Libertaire.
Et en direct sur Radio Libertaire, mais quel bonheur. Quel bonheur. Il est 19h29, on envoie le générique. Allez, c'est parti. Je vous dis au revoir. Voici à la fin de ce tour du monde libertaire. On se retrouve lundi 29 avril à 18h sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité de la glorieuse Fédération anarchiste. Merci à Monique, merci à Nicolas et merci à vous, auditeurs et auditrices, d'être et de rester à l'écoute. Et n'oubliez pas, ni Dieu, ni maître.
J'aurai découvert lequel de mes plusieurs sera à même de la sauver. D'ici là, je l'ai. D'ici là, j'attendrai. La réveillez pas, laissez-la. La réveillez pas. Ses congénères l'ont refroidi, ses congénères crient au génie. Dans le doute, il se vante, réinvente la valériane. La réveillez pas, laissez-la, la réveillez pas. Pas avant 2043. D'ici là, j'aurai découvert lequel de mes autres oubliés aura la blonde l'aimer. D'ici là, je ferai flèche de tout bois. D'ici là, je me serai consumé. D'ici là, j'aurai balayé les cendres et tout ce qui s'ensuit. Je suis pas prêt. j'ai les pièces détachées. Quant à l'horloger, ces minutes sont comptées. La réveillez pas, laissez-la, la réveillez pas. Pas avant 2043. D'ici là, j'aurai découvert lequel de mes plusieurs sera à même de l'aimer. D'ici là, j'attendrai, j'attendrai. La réveillez pas, laissez-la, la réveillez pas. Pas avant 2043. Pas avant 2043. La réveillez pas, laissez-la, la réveillez pas. Pas avant 2043. Pas avant 2040.
Radio Libertaire 89.4.
C'est bien quatre roses, juste un coin de jardin tout en friche, un vieux chien pas malin qui s'en fiche, du lilas, quelques noix, du genièvre, un buisson de chansons sous les lèvres, une fleur dans le cœur à te dire. Des placards pleins d'histoires et de rires. Nous, tu vois, qu'est-ce qu'on a? Des cerises, des châteaux en morceaux dans l'eau grise. Des années à donner sans attendre. Des grands soirs de l'espoir à revendre. Les moineaux, les pierrots qui s'amusent, un canal, un petit bal, une écluse, les bouchons